Bonjour Marcia, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission qui aura pour but de vous présenter Monsieur Victor Anisset et son œuvre actuellement dans notre collège.
Commençons par la présentation de Monsieur Victor Anisset, faite par Pierre-Edouard.
Victor Anisset est un homme martiniquais né au Marigot. Il part faire ses études en France à l'école de métiers d'art à Paris. Il revient en Martinique, puis commence à peindre en parallèle de la céramique. La vocation de devenir céramique lui vient de sa jeunesse quand il aidait le père Pinchon à nettoyer des fragments de poterie.
Merci, Pierre-Edouard. Nous allons parler de manière très précise de son œuvre avec Oriane. Nous t'écoutons.
Cette œuvre a été créée en 2002 par Victor Anisset en collaboration avec l'architecte Serge Guineau, qui a réalisé l'amphithéâtre et la forme du mur. C'est une œuvre monumentale qui s'inscrit dans un espace public, un établissement scolaire. Victor Anisset aime rendre l'art visible par tous en réalisant ses œuvres. Elle est appelée Restitution 2. L'œuvre rend hommage aux Amérindiens et représente l'aube. Elle est constituée de plusieurs couleurs faites à partir de plantes. Elle est composée de briques, d'adornos en terre cuite et de carreaux coloris. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre des 1% artistiques. Cette œuvre a été restaurée en 2011.
Nous allons poursuivre avec les différentes propositions que pourront nous apporter la 3e F.
Au nom des élèves de la 3e F, nous avons été choqués d'apprendre que cette œuvre était méconnue de l'ensemble du collège, c'est-à-dire les élèves, le principal, le CPE, enfin toutes les personnes qui occupent le collège. En plus, cette œuvre a été réalisée par Victor Anisset dans un but précis. Victor Anisset a voulu mettre l'art à la portée de tous, voilà pourquoi le choix d'un établissement scolaire. Cet amphithéâtre est inspiré de croyances amérindiennes qui expriment la joie par ses couleurs, sa forme, c'est donc un lieu de fête et de partage. D'autant plus que l'amphithéâtre est un lieu de liberté et d'expression où chacun d'entre eux peut prendre la parole. Voilà pourquoi nous avons eu ces quelques idées.
Nous allons inaugurer son œuvre en invitant les élèves de Victor Anisset et en installant une plaque avec le nom et une courte biographie de l'auteur. Nous allons organiser par les élèves de 3e d'une manifestation afin de sensibiliser les élèves de 4e au travail de Victor Anisset, opération à répéter plusieurs années. Faire cours dans l'amphithéâtre, lors d'une organisation du marché de Noël, inviter les élèves de Victor Anisset afin qu'ils vendent leurs productions artistiques dans l'amphithéâtre. Ouvrir la porte un jour par semaine afin que les élèves puissent accéder librement à cet espace sous, bien sûr, la surveillance d'un personnel de vie scolaire. Organiser des flash mobs dans cet espace. Organiser des expositions dans l'amphithéâtre pendant une durée de temps limitée. Établir un jury dans cet espace lors de l'épreuve d'histoire des arts. Organiser la remise des prix trimestriels dans l'amphithéâtre.
Organiser pour les troisièmes, après l'examen du brevet, une après-midi récréative dans ce lieu, établir une statuette de Victor Anisset à côté de celle de Cassin-Saint-Clair, organiser un prix Victor Anisset, soit pour trouver un nouveau logo pour l'établissement, soit pour recommencer un élève dans le cadre de la meilleure production artistique de l'année. Trace vidéo ou écrite laissée par les élèves de troisième ayant travaillé sur le projet cette année. Sujet d'écriture, donner aux classes de 4e et 3e sur l'œuvre de Victor Anisset. Nommer la salle d'activité Salle Anisset et que cette salle soit le lieu d'exposition des œuvres réalisées par les élèves qui seront accrochés au mur.
Merci Annabella et Christopher. Maintenant, dernier sujet avant de passer à notre fameuse interview. L'art amérindien dans tous les détails par Aurélie et Cédric. Nous vous écoutons.
Bonjour. Je vais vous présenter comment vivaient les Amérindiens qui furent les premiers habitants de notre île. Les différents groupes amérindiens vivaient dans les villages installés près des rivières, de la forêt tropicale ou encore sur les flancs des morts. À partir du VIe siècle, on suppose que la population amérindienne privilégiait les villages en bordure de mer car on a trouvé sur certains sites une grande quantité de coquillages de lambis, de vestiges de crustacés et de poissons. La base de leur alimentation est le manioc avec lequel ils fabriquaient les cassaves et le wikou qui est une boisson fermentée à base de manioc. Ils cultivaient aussi la patate douce, les piments et le coton. Les Amérindiens vivaient aussi de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils chassaient le petit gibier et récoltaient des crabes de terre. Les Amérindiens étaient donc proches de leur environnement. Leur culture procédait par composition avec la nature. C'est ce que l'on appelle l'animisme. Ainsi, il y a deux animaux qui apparaissent souvent lors de fouilles, la grenouille et la chauve-souris. La grenouille est, d'après eux, un être proche de la mer et la chauve-souris est un lien entre les vivants et les morts. Ces croyances sont leur principale source d'inspiration, d'art, comme nous allons le voir tout de suite avec mon camarade.
Bonjour, je vais vous présenter l'art amérindien. Monsieur Anissé a représenté sur son œuvre des symboles se rapprochant fortement de l'art amérindien et notamment de leurs adornements, c'est-à-dire des figurines modelées sur le bord des vases. Il est donc intéressant de faire un rappel sur l'art des Amérindiens. Commençons par rappeler les différentes formes d'art des Amérindiens. Tout d'abord, l'art rupestre, c'est-à-dire sur des parois rocheuses, est très représenté dans l'archipel des Antilles et en Guyane. Ainsi, la Guadeloupe compte environ 1200 gravures sur 27 titres. Et en Martinique, des pétroglyphes sont présents dans la forêt de Mont-Travail. Cet art est difficilement compréhensible aujourd'hui, mais semble lié aux croyances des Amérindiens. Ceux-ci fabriquaient aussi des pendentifs, utilisant le bois, la pierre ou les coquillages et représentant des félins, des oiseaux, des grenouilles ou des chauves-souris, rappelant leur lien fort avec leur environnement. Cependant, les Amérindiens étaient avant tout des experts de la céramique, c'est-à-dire la fabrication de poteries, ce qui renvoie directement à l'œuvre de M. Anissé. Ces poteries servaient à la vie quotidienne, mais étaient souvent décorées de manière artistique. Ce sont les femmes qui faisaient la poterie. Les décors des poteries représentaient des figures géométriques, ainsi des symboles d'animaux comme la grenouille ou la chauve-souris, gravés avant la cuisson. Elles pouvaient aussi être décorées d'adornements représentant des formes humaines ou animales qui rappellent fortement les figurines de l'œuvre de M. Anissé. À partir de 400 après Jésus-Christ, c'est la peinture qui sera privilégiée. Les Amérindiens utilisaient trois couleurs, le rouge de la terre, le blanc récolté dans les îles, ainsi que le noir provenant du bitume de Trinidad. Les couleurs étaient apposées avant la cuisson de la céramique. On peut penser que ces trois couleurs étaient choisies par rapport à leurs croyances, qui eurent donc un grand rôle dans leur art.
Merci. C'est un moment, je suppose, tant attendu par tous nos auditeurs, l'interview d'un monsieur Victor Anissé. Plusieurs questions lui seront posées dans le but d'enrichir votre savoir sur cet artiste. Et cette interview sera faite par Stacy, Christopher et Lauriane.
Bonjour, monsieur Anissé.
Bonjour, bonjour.
Première question, pourquoi un amphithéâtre ?
Ah, c'est pas tout à fait un amphi. C'est un théâtre. Nous avons décidé, enfin, l'architecte avant tout, monsieur Seguino, que ça aurait dû être un théâtre de verdure. C'est pas tout à fait l'amphi, toi. L'amphi, ça prend beaucoup plus et c'est beaucoup plus évolué, surtout dans la période romaine. Donc, on a décidé un petit théâtre de verdure très modestement. Et pourquoi ? Parce que la forme, si vous avez regardé bien la forme, vous voyez, c'est presque un demi-cercle. Et vous savez que l'homme, en général, aime bien se mettre en cercle pour faire communauté, pour être ensemble. Alors, Serge avait pensé avoir un mur derrière, mais c'est avant tout adressé aux élèves. Mais comme on ne m'a jamais, c'est la première fois, je profite de l'occasion pour vous remercier vraiment, vraiment, intensément, remercier vraiment beaucoup je ne m'attendais pas à cela, à tant d'élèves et à ce travail présenté par vous. Parce que personne ne m'a jamais posé de questions sur cette œuvre. Vous pensez très bien que quand on a une œuvre comme ça à créer, on n'est pas très fier et on a peur. Comment investir une telle surface, sachant que au moins tous les ans, à peu près une centaine de personnes étrangères va voir ça et comment ils vont réagir et quelles sont les critiques qu'ils vont poser. Alors, c'est avant tout ça, c'est ce demi-cercle, c'est pourquoi c'est devenu un petit théâtre de verdure.
Pourquoi au collège?
Ah, le collège, il faut savoir que j'ai fait 38 ans d'enseignement en art plastique. Et quand je suis arrivé à la Martinique en 1967 après mes études, et j'ai commencé à enseigner au lycée Schœlcher. Au lycée Schœlcher, les élèves que j'avais, surtout les élèves de classe latin, 3e L, je ne vais jamais oublier cette classe qui m'a très bien reçu, je me suis rendu compte que ces élèves étaient dans la même situation que moi quand je suis parti 10 ans avant. J'ai laissé la Martinique en 1957. Je ne connaissais pas mon île. Je ne savais pas que la Martinique existait. On n'avait pas de voiture, pas de voiture. On ne savait pas. La Martinique s'arrêtait, pour moi, au niveau du Marigot, la commune. Et c'est quand je suis venu à Fort-de-France, je me suis dit que la Marigot, c'était en dehors. Donc, on ne savait pas. Personne ne nous racontait notre histoire. Un pan de notre histoire était complètement occulté. On n'a jamais parlé des Amérindiens, alors que je vivais sur les traces d'Amérindiens. Je vivais dans un village amérindien. C'est quand je suis parti, j'ai fait mes études, et que j'ai travaillé longtemps au Musée de l'Homme sur le journal des Américanistes, j'ai appris que c'est un peuple vraiment extraordinaire. Mais j'ai eu la chance, comme un élève a souligné, de rencontrer le père Pinchon, il avait à peine 9 ans. Et donc c'est lui qui m'a donné un petit peu le goût de la céramique. Voyez-vous ?
Et pourquoi à cet endroit-là précisément ?
Eh bien, cet endroit-là, parce que je me suis dit, si je suis ignorant comme ça, j'aurais aimé que mes compatriotes, particulièrement les enfants et les élèves en l'occurrence, ne soient pas aussi ignorants que moi j'ai été en 1957. Donc je me dis, si j'ai cette opportunité d'intervenir dans une école, je vais travailler avec la culture amérindienne. Parce qu'il fallait que le plus d'élèves voient ça, que les parents, et transmettre et savoir que nous avons une richesse extraordinaire du côté des Amérindiens, sur le plan du vocabulaire, sur le plan de l'habitat, de l'architecture, sur le plan de ce peuple qui a donné autant au monde, pas à la Martinique seulement, pas à la Caraïbe, mais au monde. Vous devez savoir que ces Amérindiens ont leur droit la pomme de terre, ont leur droit le haricot, ont leur droit le caoutchouc, on leur doit le piment, on leur doit le maïs. Vous comprenez? Et je peux rester là pendant une heure à vous parler le nombre de choses que nous leur devons. On leur doit, par exemple, le sport. Vous savez, c'est un peuple qui travaillait que le matin dans les champs, et l'après-midi, c'était le sport, c'était la culture. C'est-à-dire jouer au ballon avec le caoutchouc. Il y a des sports qui se sont développés, mais oui, c'est ça. Et donc, on leur doit tout ça. La deuxième chose, pourquoi dans l'école? Parce que vous êtes de la sixième à la troisième, vous prenez les bases de votre instruction et vous avez besoin d'un bouclier, vous avez besoin de quelque chose pour d'appui, et c'était ce mur-là. Et la forme du mur n'est pas une forme innocente, c'est-à-dire ça rappelle un demi-cercle, mais c'est aussi, pour l'architecte, c'était la lune qui se levait. D'accord. C'est l'éducation, qui vous prenez de l'éducation, vous prenez des forces, et vous allez, mais vous ne pouvez pas partir à venir comme ça. Parce qu'une chose qui est importante, c'est que on nous vole le passé. Et si on vous vole votre passé, vous n'aurez pas d'avenir.
D'accord.
On n'a aucun appui.
D'accord.
Oui.
Avez-vous voulu travailler les poteries comme eux, avec les mêmes outils, les mêmes couleurs, etc.?
Oui. C'est-à-dire que vous devez savoir, moi j'ai une formation de 10 ans de céramique, sans compter les années de stage, 7 ans de stage en Europe. Mais la technique amérindienne, je l'ai toujours gardée et je travaille toujours avec. Ils ont trois techniques, le colombin et la technique au pan. Ils travaillaient avec des pans, ils montaient, ils faisaient leur forme. Ils travaillaient avec les colombins, ils faisaient monter. Mais ça, c'est tous les peuples primitifs sont passés par là. Mais ce qu'il y a de particulier chez eux, c'est que, c'est vrai, il y a un élève ou une élève qui a parlé que des femmes, ce sont les femmes qui faisaient la poterie. Mais ça, c'est la première partie, jusqu'au 4e siècle. Après, les hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Les hommes ont dû faire de la poterie, mais la poterie était trop grossière. Mais la même technique, j'ai employé. Les couleurs qui sont là, sur le mur, il y a des couleurs naturelles, des teintures. Comme ils employaient, ils basaient du rouge sur leur corps. À telle enseigne, quand ils sont arrivés, les conquistadors, ils ont dit c'est un peu, ce sont des peaux rouges. Mais ils ne savaient pas que c'était pour se protéger contre les moustiques, avec le roucou sur leur corps. Et le rouge, ça refoulait les moustiques. Et donc, je me sers des teintures naturelles que je vais chercher dans la nature, le mapou. Le mapou, c'est un mot amérindien. C'est un gros, gros arbre qui donne des petites baies violettes. Et moi, j'ai une formation de physico-chimiste. Et avec cette formation, j'arrive à faire des teintures. Il y a aussi, surtout, il y a ce qu'on appelle des engobes. Ce sont des mêmes termes, mais blanches au lieu d'être rouges. On se sert pour faire des décorations, surtout sur les hiéroglyphes en général. Et vous avez aussi de l'émail. L'émail, c'est artificiel, c'est très contemporain. Donc, c'est un truc industriel dont je me sers. Et c'est pourquoi je voulais que ça soit pédagogique. C'est pourquoi les élèves me posent ce genre de questions. Et je pense en sciences physiques, etc., on a de quoi travailler là-dessus.
Merci. Mm-hmm. Est-ce que le fait d'utiliser des adornos veut dire que vous vous appropriez la dimension symbolique des Amérindiens?
Oui. Et le problème, c'est que nous ne connaissons pas très, très bien la signification. Mais les adornos, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas... Les Amérindiens appellent ça des amulettes, des murakita. Vous savez ce qui s'est passé? Et ça se passe partout, et ça se passe dans le monde en ce moment. Quand l'autre arrive, rase tout et se pose dessus. Ça s'est passé, je ne vais pas faire tout de politique, mais ça s'est passé pour l'Irak. Quand on a bombardé l'Irak, on a oublié que c'était la Mésopotamie, et c'était le peuple le plus ancien et le plus cultivé. Et je suis désolé, je vais être un peu brutal, mais M. Bush était un illettré. S'il savait ça, il n'aurait pas envoyé des bombes sur l'Irak. Il y a plusieurs façons d'aller chercher le monsieur. Donc, ils ont détruit des tonnes d'histoires. Ouais. Et nous, le problème qui se pose, c'est que nous avons ici, dans le sous-sol, une richesse archéologique extraordinaire, mais on a construit dessus. Par exemple, le cimetière du Marago se trouve sur un site archéologique. Et ça peut faire rire, mais dès qu'il y a un mort, et je sais que c'est dans la fosse commune, je m'arrange pour voir le camarade fossoyeur. Parce que dès qu'il descend à 1,50 m, il commence à trouver des objets amérindiens dans le sous-sol. Ouais. Et donc, vous avez le diamant, c'est la même chose. On a construit sur des sites. À La Marie, sur le quartier de La Marie, et on a construit sur un site archéologique d'une richesse extraordinaire. Mais le fait est, bon, on a besoin de lieux, on a construit dessus. Et moi, quand je... L'Adorno, ce sont les conquistadors qui ont donné le nom d'Adorno. Parce que quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas penser que de l'autre côté, qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus avancés. L'Europe était dans le noir. Ils ne pouvaient pas penser que ces gens avaient une culture aussi élevée. Donc, cette culture-là, au lieu d'appeler par le nom Murakita, c'est une amulette, ils ont donné Adorno. Et en espagnol, Adorno, ça veut dire décoration. Donc, ils ont décidé, ils ont baissé le niveau du truc en disant que c'est un objet de décoration. En fait, ce n'est pas ça. Un Adorno, quand il vous regarde, et c'est la raison pour laquelle je mets l'Adorno toujours sur la tube verticale, c'est pour que votre regard rentre là-dedans. Et après, à vous de voir.
Merci. Justement, pourquoi vous avez choisi les Adorno comme langage artistique plastique?
Parce que, premièrement, c'est d'une beauté extraordinaire. Quand vous verrez avec votre professeur d'art plastique, quand vous allez essayer de les dessiner, vous verrez que c'est inscrit toujours soit dans un carré, soit dans un cercle. Vous verrez la façon de la symétrie, la façon de s'organiser. On a l'impression que les peuples qu'on dit sauvages sont des peuples qui ont été beaucoup plus loin. C'est une beauté extraordinaire, d'une solidité. Et en plus, il y a une harmonie qui se dégage par rapport à la forme. Parce que vous les voyez hors du contexte. Parce qu'il faut savoir, ça allait sur des vases rituels. Les vases servaient pour faire les rituels. Donc, c'était pas... Et la dernière chose, pour vous aider, parce que sinon ça irait trop loin, les adornos s'étaient toujours posés à l'horizontale sur le rebord, c'est-à-dire le regard vers le ciel, la relation avec le cosmos. Ce n'était pas posé comme le mur. Moi, j'ai mis à la verticale pour que votre regard aille vers eux, mais en principe, c'était posé à l'horizontale, ce côté spirituel de leur création.
Donc, monsieur Anissé, l'œuvre est-elle signée?
L'œuvre est signée. La première œuvre n'était pas signée, volontairement. Vous savez, j'ai, en tant que plasticien, je signe une œuvre quand je vends la pièce, quand on m'a payé. Mais je ne signe pas avant. Donc, elle n'avait aucune valeur. C'est quand je l'ai restaurée, parce qu'on a accepté de restaurer, je me suis dit donc, le ministère des Affaires culturelles, alors j'ai mis un signe que vous n'allez pas avoir. Et c'est un signe. Ça veut dire ce que ça veut dire, un signe. Hein? Quand vous dites qu'il y a un signe dans le ciel, le temps va venir, le soleil, l'éclair, etc. Bon, mais ça va nous amener trop loin, c'est très, très spirituel. Mais il y a un objet qui veut dire ce que ça veut dire. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils travaillaient aussi, eux. Mais la signature, c'est un peu prétentieux. Parce que ce n'est pas à moi. Une fois j'ai crié, je ne suis plus possesseur de cette œuvre. Cette œuvre va vivre que s'il y a de l'amour pour elle.
Effectivement, chaque personne a sa façon de voir vivre les choses.
Ouais, t'as pas pris.
En quelques mots, pourquoi vos œuvres sont-elles toutes monumentales?
Elles ne sont pas toutes monumentales. Elles sont, mais c'est le mot, mais c'est pour ramener ça à la modestie. Okay. Ce que j'ai décidé, d'être très très jeune, et ça fait partie de mes rêves, j'ai décidé que j'ai vécu sans art dans ma maison, la maison familiale. Et ça, c'est terrible, quand j'ai découvert l'art après, dans le monde. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient jamais l'art, sous quelque forme que ce soit. Et je me suis dit que si un jour j'ai la possibilité de créer, de proposer quelque chose, je vais m'arranger toujours pour que ce soit en plein air, que le maximum de gens puissent voir. Même si en apparence ne s'intéresse pas, mais ils passent devant tous les jours, les enfants... les élèves, vous allez passer tous les jours. Même si vous ne vous attendez pas, votre œuvre va être attirée par quelque chose, par une tache, par une couleur, par une forme, par un relief, un objet qui sort du mur. Ça va vous intriguer. C'est suffisant. On n'a pas besoin de plus. Voyez-vous? Et donc, c'est cette éducation, j'ai décidé, dès mon retour à Martinique, de faire. C'est pourquoi j'ai toujours fait des objets en plein air. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de table, je ne fais pas de choses comme ça. Mais... les choses essentielles. J'ai refusé certaines créations parce que c'était prévu à l'intérieur d'une salle ou à l'intérieur d'une maison. Ça ne m'intéresse pas du tout.
D'accord, je vous remercie. Et dites-nous, en fait, qu'attendez-vous de votre public lorsqu'il regarde vos œuvres?
Moi, ce que j'attends, nous sommes dans un milieu scolaire avec des jeunes. Moi, j'aurais aimé que je souhaitais que les élèves qui passent trouvent les mêmes sensations que j'ai eues quand j'ai rencontré le père Pinchon et en touchant la terre. Parce que c'était fait pour que vous puissiez toucher. Parce que si vous touchez l'œuvre, vous verrez des traces de la main, vous sentirez une certaine sensation. Est-ce que la pièce est lisse? Est-ce qu'elle est granuleuse? Quelle forme? Quand vous développez, vous passez votre main dessus, vous passez dessus, à un moment donné... il y a un précipice qui amène parce que la forme vous entraîne. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Mais c'était pas, j'ai pas fait l'œuvre pour, je fais pas des choses pour plaire. Moi, je voudrais que les gens rentrent là-dedans individuellement, avec leur sensibilité et leur éducation.
D'accord, M. Anissé. Ben, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, je laisse la parole à Marcia.
Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, M. Anissé. Et donc, pour clôturer cette émission qui vous aura, j'espère, beaucoup plu, beaucoup appris sur M. Victor Anissé, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 20 septembre 2014 de 9h à 11h au Collège Cassa Saint-Clair dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine, en votre présence, M. Anissé, qui sera là pour répondre à toutes les questions posées.
Je vous remercie beaucoup.